La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. À la technique, Jacques Nizin, toujours fidèle au poste, et au micro, Vinciane Colson. Nous allons parler des prisons ce soir, des conditions de détention et plus particulièrement de la lutte contre la radicalisation en prison. Comment fonctionnent les ailes de déradicalisation qui se sont ouvertes à Ittre et à Hasselt? Sont-elles efficaces? Peut-on vraiment déradicaliser des détenus en les coupant de tout? Et de quoi parle-t-on exactement quand on évoque la radicalisation en prison? On va en discuter ce soir avec nos trois invités. Alors tout d'abord, Marie Berquin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate et membre de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, l'observatoire qui vient de publier sa notice 2016 sur l'état du système carcéral belge. On va revenir dans cette émission sur les problèmes pointés dans le rapport. Alors à vos côtés, Juliette Beguin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes criminologue et vous travaillez à Bruxelles Laïque comme déléguée sociopolitique. Vous suivez d'ailleurs l'évolution des conditions d'enfermement en Belgique depuis de nombreuses années. Et enfin, Mathieu Galmar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller moral laïque au sein des établissements pénitentiaires d'Andenne, de Jamiou et de Marnef, et donc confronté, on va dire, au quotidien, au vécu des détenus, et vous nous en parlerez dans un instant. Alors Marie Berquin, dans sa notice 2016, l'Observatoire international des prisons pointe de nombreuses inquiétudes concernant le milieu carcéral belge. Le plus marquant, c'est que ces inquiétudes sont quasiment identiques à celles des années précédentes. Est-ce que ça signifie que finalement rien ne bouge dans les prisons belges?
Alors c'est évident que peu de choses bougent. Alors il y a quand même des choses qui sont nouvelles. Au rang des nouveautés positives, si je puis dire, il y a quand même une petite réduction de la surpopulation carcérale qui a été entraînée notamment par la construction de nouvelles prisons. Mais cette information doit être prise avec beaucoup de précaution parce qu'elle peut être le résultat de nouveautés conjoncturelles et pas du tout au niveau dynamique, c'est-à-dire que la surpopulation ne peut réellement être réduite que si on lutte vraiment sur les causes de cette surpopulation, qui sont la diminution du recours à la détention préventive, l'augmentation des libérations conditionnelles et le fait de construire des nouvelles prisons. Si ça peut dans un premier temps réduire un petit peu cette surpopulation, ça ne peut pas à long terme la réduire efficacement. Alors dans le rapport, ce qu'on a pointé aussi comme nouveauté, nouveauté, c'est un rapport qu'on fait, qu'on a ici publié, le dernier date d'il y a 3 ans, donc je parle des 3 dernières années, c'est la non-exécution par l'État des décisions de justice. C'est-à-dire que la Belgique a été condamnée d'abord par exemple en 2014 pour des traitements inhumains et dégradants dans les prisons par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a considéré que les conditions dans lesquelles les détenus étaient enfermés en Belgique s'apparentaient à des traitements inhumains et dégradants et qui a considéré que c'était des problèmes structurels que la Belgique devait régler de manière donc structurelle également. Et la Cour européenne a demandé que la Belgique prenne des mesures à cet égard-là, ce qui n'est pas fait. De la même manière, les détenus n'ont toujours pas de recours efficace contre les entraves à leurs droits fondamentaux. Il n'y a pas en Belgique de façon d'y mettre un terme de manière efficace. Ça, c'est un des gros problèmes. Et alors, la deuxième chose, c'est qu'on voit que la seule réponse de l'État belge, c'est les fameux master plans avec la construction de ces nouvelles prisons qui sont énormes. C'est la seule réponse à toutes ces condamnations.
Notamment la méga prison de Haren.
Exactement, exactement. Et que dans la construction et dans ces plans, le sens de la peine n'est pas du tout interrogé. Pourquoi est-ce qu'on construit ces nouvelles prisons? Pourquoi est-ce qu'on enferme dans des énormes prisons? Personne n'est capable, dans toutes les personnes qui sont responsables de ce master plan, d'abord les master plans ne sont pas publiés, on ne sait pas exactement ce qu'ils contiennent, et puis personne n'est capable de répondre à cette question de pourquoi est-ce qu'on construit de telles prisons et sous cette forme-là. Le sens de la peine devient donc totalement vide. Ça, c'est un constat qu'on fait et qui est alarmant.
Alors, dans les nouveautés, si on peut dire quand même, de 2016, il y a ces fameuses ailes de déradicalisation, donc les ailes déradex, comme on les appelle dans le langage pénitentiaire. Alors, elles ont été créées suite au plan d'action contre la radicalisation dans les prisons du ministre Koen Gaens, donc un plan qui date de mars 2015. Alors, il y a donc 2 ailes, il y en a une à Ittre qui compte une quinzaine de détenus, c'est difficile d'avoir des chiffres vraiment précis, et une à Hasselt qui compte 10 détenus, normalement. Juliette Beguin, finalement, finalement, ce plan d'action contre la radicalisation dans les prisons, il consiste en quoi, mis à part ces ailes de déradicalisation?
Mais d'abord, je voudrais constater que, de manière générale, de plus en plus, lorsqu'il y a des phénomènes de faits divers graves, ou même le phénomène comme les attentats, on remarque qu'une manière de faire politique, c'est au fait de prendre un arsenal de mesures précipitées, sans prendre justement ce temps de recul et de l'analyse de ce qui se passe, et qui est vraiment important, parce que ce qui est grave, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met en place des actions qui sont inefficaces, pire, complètement contre-productives. Et c'est malheureusement, s'agissant de la prison, un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en mars 2015, le ministre de la Justice propose un plan d'action contre la radicalisation en prison. Il présente des solutions et, à vrai dire, de nouveau, sans prendre le temps de l'étude ou de l'enquête sur le phénomène. De qui s'agit-il? Qui sont ces profils des détenus dits radicalisables ou radicalisés? Quelle est l'ampleur du phénomène? Je voudrais quand même rappeler qu'en France, une sociologue, Claire de Galambert, pour elle, qui a fait une étude, disait que le phénomène de radicalisation n'est pas aussi massif en prison que le suggère le discours ambiant, etc.
Donc, il n'y a pas de chiffres, hein, d'ailleurs, sur la radicalisation, par exemple, en Belgique. On n'a pas de chiffres très clairs sur combien de personnes sont radicalisées.
Voilà.
Oui, si je peux. Les seuls chiffres, les seules études qui ont été faites l'ont été en France par Madame Taubira quand elle était garde des Sceaux. Elle a répertorié sur le nombre de personnes qui étaient suspectées d'avoir des liens avec le terrorisme, combien de ces personnes-là étaient passées par la case prison. Et seulement 15% de ces personnes sont passées par la case prison, ce qui veut dire que seulement 15% de ces personnes ont eu la possibilité de se radicaliser en prison. C'est pas encore le cas.
Oui, il n'y a pas encore de lien de cause à effet, quoi.
Voilà.
Donc même si les logiques de radicalisation restent marginales, bon, on a quand même mis ce fameux plan. Alors, on doit dire qu'à la lecture du premier point de ce plan d'action, eh bien, on se dit le ministre va vraiment dans le bon sens, puisque il dit qu'il faut améliorer les conditions dans les établissements pénitentiaires dans l'esprit de la loi pénitentiaire de 2005. Une loi qui, pour rappel, a été adoptée à l'unanimité et qui n'est toujours pas d'application en 2017.
Oui, c'est une loi qui pourrait voir notamment un suivi, une réinsertion des détenus, des choses comme ça.
Voilà, et je lis la suite du plan. Il dit, le ministre dit, l'arme la plus puissante dans la lutte contre la radicalisation au sein des prisons est sans aucun doute une politique de détention humaine qui respecte les droits fondamentaux des détenus et une concentration soutenue sur la réhabilitation et la réinsertion. Et plus loin, prêter une plus grande attention au bien-être des détenus est la base sur laquelle viendront se greffer toutes les autres mesures de lutte contre la radicalisation. Or, quand on lit le reste du plan d'action, il n'y a plus que des actions de type de contrôle et de sécurité accrue.
Oui, donc on est vraiment plus dans la répression, dans ce qui se passe concrètement aujourd'hui. Et justement, ces ailes de déradicalisation dont on parlait tout à l'heure, donc qui ont été ouvertes en 2016, quel est le régime vraiment dans ces ailes de déradicalisation pour les détenus?
Alors, il y a les ailes de déradicalisation, mais ça n'est pas la seule chose qui permet le contrôle des détenus suspectés de terrorisme en prison, puisqu'il y a aussi des régimes de sécurité particulière individuelle qui sont appliqués à certains détenus. Et ça veut dire que ces détenus là reste avec les autres détenus, mais subissent un régime de détention qui est extrêmement restreint à tout point de vue. Donc c'est restreint au niveau des appels téléphoniques, des sorties au préau, des visites avec les familles, des visites avec les avocats, parce que par exemple certains détenus du Déradex sont fouillés entièrement après une simple visite avec l'avocat. Donc c'est un régime de détention qui est extrêmement contrôlé. Alors les ailes Déradex, puisqu'elles s'appellent comme ça, donc ce sont des ailes où il n'y a que les détenus suspectés d'être les plus prosélytes, donc de faire le plus de prosélytisme en prison. Et les détenus qui sont placés dans ces ailes le sont sur base d'une décision de la Direction Générale des Établissements Pénitentiaires. Donc la Direction Générale peut prendre la décision de placer un détenu dans une aile Déradex sans même que ce détenu en connaisse les raisons. Donc un détenu peut être placé à l'aile Déradex avec une révision de cette décision à intervalles plus ou moins réguliers, mais qui se compte en mois. Mais dans la mesure où il n'a pas accès aux raisons, il est évidemment très difficile de contester même cette décision. Le détenu n'a donc en réalité aucun recours contre cette décision de placement, qui a pourtant d'énormes conséquences sur sa détention, non seulement sur sa qualité de vie, entre guillemets, puisque il n'a plus accès à des coups de fil que si les numéros qu'il voudrait appeler ont été contrôlés par la sûreté. Enfin, c'est une procédure extrêmement compliquée pour ne fût-ce que passer un coup de fil. Alors les visites, n'en parlons pas. les préaux sont aussi extrêmement restreints, donc sa qualité de vie, mais alors aussi, et c'est ça qui est absurde, c'est que le traitement, entre guillemets, de ces détenus et l'accompagnement de leur détention disparaît. Au sein des ailes des RADEX, ces détenus n'ont plus aucun accompagnement. Donc il n'y a pas de traitement de la déradicalisation. Il y a un enfermement de la radicalisation dans des ailes spéciales pour ces détenus qu'on couvre, qu'on cache et qu'on enferme, mais qu'on ne traite pas.
D'accord. Alors Mathieu Galmard, donc je le disais en introduction, vous êtes conseiller moral laïque au sein des établissements d'Andenne, de Jamiou et de Marnef.
Tout à
donc,
fait.
Trois établissements où il n'y a pas ces ailes de déradicalisation dont on a parlé. Mais est-ce que les détenus avec lesquels vous êtes en contact, est-ce que vous avez remarqué une certaine forme de radicalisation ou pas dans les personnes avec qui vous êtes en contact?
Oui, tout à fait. Alors peut-être pour préciser, il est vrai que aucune des trois prisons à laquelle je travaille n'a d'ailes des RADEX. Mais l'une de ces trois prisons est une prison qu'on appelle périphérique, c'est-à-dire qu'elle prend en charge des personnes suspectées effectivement d'avoir collaboré à des actes en lien avec le terrorisme et des choses comme ça. Donc effectivement, il y a des détenus dans une de ces trois prisons qui ont effectivement ce profil de radicalisation religieuse musulmane.
Oui, parce que alors c'est vrai que c'est on parle tous de radicalisation et on se dit qu'en fait on sait de quoi on parle, mais c'est vrai qu'on là on parle en l'occurrence de radicalisation et on entend radicalisation religieuse islamiste. Oui. Mais en prison, ce que vous me disiez quand on préparait l'émission, c'est que finalement la prison est un lieu même de radicalisation et il y a toute une série de radicalisations qui ne sont pas des radicalisations religieuses.
Ah, c'est évident. Alors c'est pour ça que vous disiez quand on parle de radicalisation on sait de quoi on parle. Je me demande si on sait toujours de quoi on parle quand on parle de ça, parce que finalement, j'ai bien précisé que c'était lié à cette religion et c'est de ça dont parle le plan de Kun Gaines. Mais maintenant, il est évident que s'il y a bien une institution qui rigidifie la pensée et qui amène les gens à penser plus radicalement, je pense que s'il y a bien une institution, c'est la prison. Il y en a d'autres qui ont cette propriété-là, mais la prison, c'est sûr, c'est pas fait pour assouplir la façon de voir les choses.
Mais du coup, ils sont radicaux par rapport à quoi, si ce n'est pas au niveau religieux?
Mais je pense qu'effectivement, il y a ce phénomène, mais comme on a dit, on peut en questionner l'ampleur, en tout cas en questionner l'ampleur aujourd'hui. Mais effectivement, au niveau des réponses qu'on peut essayer de trouver dans sa vie, il est évident qu'une institution qui met autant à mal les personnes que la prison n'encourage pas à maintenir un questionnement sur le sens qu'on veut donner à sa vie ou le bien qu'on veut faire pour les uns ou pour les autres. Vous savez, quand on vit au jour le jour une violence institutionnelle comme certains peuvent le vivre, et je pense entre autres aux détenus qui font l'objet de certaines mesures particulières, je pense qu'effectivement c'est difficile de percevoir la société d'un bon œil. Maintenant, c'est peut-être ça tout l'enjeu de mon travail, mais de ceux aussi parmi les cultes qui vont rencontrer ces détenus, de ne pas faire miroiter des réponses trop faciles. Et c'est peut-être ça aussi un des aspects de la radicalisation de la pensée en prison, c'est qu'on peut parfois aller se focaliser sur des réponses toutes faites. Le propre, je pense, de la laïcité, en tout cas de ce que j'ai envie d'amener en prison dans mon action, c'est effectivement de maintenir un questionnement constant. Et c'est-à-dire de remettre en question parfois les réponses qu'on est amenés tous à trouver, y compris les miennes. C'est une démarche extrêmement intéressante à réaliser avec les détenus.
Oui, c'est ce que vous faites aussi à Bruxelles Laïque.
Ça fait écho, en fait, à nous menons des ateliers d'expression citoyenne portés par Bruxelles Laïque. Et ce qui ressort souvent des échanges qu'on a avec les détenus, c'est une énorme colère due au fossé entre le discours sur la réinsertion, sur le fait qu'il y a des droits, etc., qui ne sont absolument pas respectés. Donc on met ces personnes en prison parce qu'elles ne respectent pas la loi, elles ne respectent pas les règles. Et en prison, elles se retrouvent, ces personnes, soumises à un arbitraire, un système discrétionnaire, absurde, etc. Et ça suscite chez eux des terribles frustrations. Vraiment terrible. Et quand je parlais tout à l'heure de mesures contre-productives, le fait, par exemple, de créer cette cellule pour les radicaliser, mais personne n'est dupe en prison. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'accompagnement. D'ailleurs, des contacts sont fréquents. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est pas pensé. Ce sont des dispositifs qui sont impensés. Et malgré tout, on fait semblant aux yeux de l'extérieur. Donc, ils se sentent floués à plus d'un titre. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est les effets de ce type de mesures sur l'ensemble des détenus de droit commun et sur l'ensemble du climat des prisons qui devient délétère. Il y a, la sécurité devient quelque chose de complètement banalisé. Il y a des fouilles. Par exemple, j'ai un détenu qui me disait, je vais à la visite où il y a des détenus radicalisés qui sont mis dans un coin. D'ailleurs, les surveillants écoutent ce qu'ils disent, ce qui normalement n'est pas permis. Enfin, c'est l'OIP en a parlé dans son rapport. Et après ça, eh bien, cette personne va être suspecte parce qu'elle a dit bonjour à un détenu radicalisé, mais ça peut avoir des effets jusqu'à retarder sa libération anticipée. Enfin, voilà, tout ça n'est pas pris en considération. Donc, ça gronde. Il faut savoir que ça gronde dans les prisons. Et moi, je suis toujours étonnée. C'est pas du tout une provocation. C'est vraiment de l'analyse qui n'est pas plus d'émeutes, de réactions, de réclamations collectives, de mouvements. Tellement, voilà, il y a une espèce de climat un peu, excusez-moi, venir avec cette histoire de Fillon, d'être moralisateur et de ne pas montrer spécialement le bon exemple.
Mm-hmm. Par rapport, si je peux me permettre, par rapport à cette absence d'accompagnement dans les prisons et dans ces ailes des RADEX en particulier, ce qui est effrayant, c'est que la réponse du gouvernement qui est de construire ces nouvelles prisons, etc., a un coût qui est énorme. Et où est-ce qu'ils vont chercher cet argent? Eh bien, ils l'enlèvent à ces services-là. Donc, c'est complètement hallucinant le sens dans lequel va le gouvernement. Parce que pour des plans qui ne sont pas pensés en termes de sens de la peine, où on se retrouve avec des prisons qui sont construites en partenariat public-privé, où on endette la population pour 25 ans, parce que c'est ça, c'est des contrats qui coûtent des millions sur des dizaines d'années, l'argent, on va le chercher dans l'accompagnement, qui est encore un peu plus réduit, dans la formation des gardiens, qui est encore, elle aussi, un peu plus réduite. Ça, c'est effrayant.
Alors, on va continuer à parler de ça, et justement, des pistes de solutions, et voir s'il y a d'autres solutions qui pourraient être mises sur la table. Mais je vous propose de faire une petite pause musicale, avec une chanson qui date de 1983, mais qui a une résonance encore toute particulière aujourd'hui. C'est une chanson de Bernard Lavilliers, qui s'intitule QHS, donc Quartier de Haute Sécurité.
C'est l'hiver et nous tournons en rond, sans rien faire, sans chanter de chansons, au fond des corridors, enfant des courants d'air, au-dessus du grillage, on voit l'arrogance de leurs armes, tu vois, je ne suis pas à plaindre, crois-moi, on s'occupe de moi. On dirait qu'ils veulent nous détruire. On dirait qu'ils veulent nous réduire. Je n'ai pas de remords. Je suis un enfant perdu. Je suis dans les nuages, c'est vrai. Ici rien n'est réel, tu sais. Peut-être qu'on se réveille jamais. Mais qu'est-ce qu'on avait fait? Je suis hors la loi, au goût de pain total et de cendre. Je suis hors la loi, la vie est au-delà, tu lui ressembles. Chaque millimètre. heures, la nuit, la peur.
Dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On parle des prisons ce soir et plus particulièrement de la lutte contre la radicalisation en prison avec Marie Berquin, avocate, membre de l'OIP, donc l'Observatoire international des prisons, Juliette Beguin, déléguée à Bruxelles laïque, et Mathieu Galmar, conseiller moral laïque en prison. Alors, j'attends, c'est ce que répète Bernard Lévillier dans cette chanson. Les détenus qui se retrouvent dans ces ailes de déradicalisation, finalement, ils attendent toute la journée sans rien voir venir. C'est le plus dur pour eux, à votre avis, Mathieu Galmar? Alors, même si vous n'êtes pas en contact directement avec ces détenus-là, le fait de se sentir seul, isolé, est-ce que c'est une des choses qui est le plus dur à vivre pour les détenus?
Alors, pour les détenus, je pense, mais il m'est très compliqué de répondre à ça parce que je n'ai pas d'expérience de privation de liberté. Je n'ai jamais été privé de liberté de ma vie. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ils sont toujours extrêmement contents de recevoir la visite de quelqu'un. Et donc oui, par rapport à ça, je peux répondre qu'à mon avis, oui, l'isolement est quelque chose d'extrêmement compliqué à vivre. Et j'irai même plus loin, je pense que ça crée des séquelles physiologiques, psychologiques très profondes. J'ai suivi des gens pendant des années, je peux vous assurer qu'on voit la différence en quelques années, des gens qui y réfléchissent peut-être moins bien, oui. Enfin voilà, ça se marque irrémédiablement. Alors voilà, c'est les effets de la détention. Je pense que c'est pas du tout assumé par les décideurs qui n'ont peut-être pas conscience de ça. Maintenant, par rapport à ceux qui vivent en plus dans ces ailes peut-être des radecs, je me dis que ça doit être encore plus compliqué vu que ils sont coupés de beaucoup plus de contacts encore que les autres. C'est déjà
Mais est-ce que finalement, parce qu'on dit qu'ils sont isolés, c'est vrai, il y a un problème d'accompagnement, mais ne soyons pas naïfs non plus. Le risque, si on laisse les détenus les plus radicalisés en contact avec les autres, c'est qu'ils propagent leurs idées. Le gouvernement a voulu les isoler pour cette raison, et les directeurs de prison, entendus en commission attentat de la Chambre, ont dit que cet isolement était nécessaire et qu'il était bénéfique.
Des études aussi criminologiques ont prouvé que c'est ce qu'on appelle la politique de la concentration. Que ça n'a pas beaucoup d'effets positifs, et notamment ça peut aussi avoir un effet d'attrait pour les autres détenus, c'est-à-dire ça devient des personnes tout à fait à respecter, à suivre.
Oui, une sorte de héros.
Renforcer une espèce d'émulsion pour ce type de profil. Or, alors qu'il y a moyen de mettre en place, plus la prison sera ouverte, plus il y aura des activités de liberté d'expression, des espaces où on travaille la question des droits fondamentaux, d'échanges, etc. Moins il y aura ce phénomène dont parlait Mathieu, qui est de se radicaliser dans son coin par le problème du non-sens, quoi.
Et un autre risque aussi, c'est que si des détenus, parce que la procédure qui mène au placement de ces détenus dans les ailes des radex est à ce point arbitraire que potentiellement des détenus qui n'étaient pas du tout radicalisés y sont placés, là le risque qu'ils soient pour le coup radicalisés parce qu'ils sont entourés de gens qui sont radicalisés est énorme. Donc avec de telles erreurs, on peut se retrouver à radicaliser des gens qu'on essaye d'éviter, qui radicalisent des autres. Ça devient...
Et puis oui, et Mathieu Galmar, en plus vous me disiez que dans la préparation de l'émission, vous me disiez que parfois les autres aussi servaient à déradicaliser, c'est-à-dire empêchaient d'être radicalisés.
C'est ce que je m'apprêtais à expliquer, parce que je pense que quelque chose qui n'est absolument pas comptabilisé, parce que c'est très compliqué à observer, mais on l'entend, moi en tout cas c'est des discours que j'ai déjà entendus, c'est parfois, moi je pense que rien ne compte plus dans une prison que la parole d'un père. Quelqu'un qui est dans la cellule d'à côté, alors effectivement, ça marche pour la radicalisation, mais ça marche aussi pour la déradicalisation, dans le sens où Il n'y a pas que des radicalisés et des victimes en puissance de la radicalisation. Il y a aussi des contre-discours. Il y a des gens qui disent « Non, mais tu vois bien ce qui se passe dans les médias. Tu ne vas pas écouter ces aberrations. » Et donc, il y a effectivement tout un débat d'idées. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a encore cet espace pour une discussion. Mais vous vous imaginez, s'ils sont placés dans ces ailes de déradicalisation, effectivement, ce contre-discours a très peu lieu. Enfin, voilà, surtout que si c'est le discours d'un gardien, que après je trouve qu'ils ont aussi des très bons discours à l'encontre des détenus à certains moments, mais si c'est que ce discours-là qui compte, il compte beaucoup moins que celui peut-être de quelqu'un qu'on a connu dans son quartier ou de quelqu'un qu'on a connu à une autre période de sa détention et qui peut dire qu'on va vers des idées qui ne sont positives pour personne.
Je voudrais juste revenir peut-être sur nos ateliers d'expression citoyenne, parce que c'est des choses c'est des expériences vraiment intéressantes. Les détenus nous disent c'est la première fois qu'on nous prend en sérieux, qu'on nous traite comme des personnes capables de penser, de réfléchir, et ils disent que ça fait énormément de bien par rapport à cette frustration. Alors nous, on n'est pas là pour maintenir l'ordre, mais ça a un effet comme ça. Ils sont très reconnaissants d'avoir un espace où déposer les choses et pouvoir mettre les choses sur la table, comme dit Mathieu. Et donc c'est vraiment par ce genre d'espace-là, et c'est la même chose avec les jeunes dans les quartiers, il n'y a pas d'espace où on prend ces personnes au sérieux dans leur souffrance, et vraiment sans paternalisme, sans... voilà, avec une construction de savoir ensemble. On a chacun nos savoirs avec des modalités pédagogiques plus horizontales que verticales. Voilà, il y a tellement de choses à faire. Et voilà, et une des premières choses à faire, c'est simplement, ils sont pas dupes. La loi pénitentiaire n'est pas mise en application. C'est peut-être la première des choses à faire pour lutter contre toute forme de radicalisme.
Oui, Marie Berquin, vous vouliez ajouter ?
Oui, je voulais simplement ajouter par rapport à ce que Juliette disait sur les activités qui étaient organisées avec les détenus, etc., et faire un lien avec l'isolement et avec les conséquences de l'isolement dont on discutait auparavant. Alors, les Nations Unies considèrent quand même qu'au-delà de 15 jours d'isolement, c'est un traitement inhumain et dégradant. Et donc, on est aujourd'hui avec un système où on isole des détenus pendant des semaines, pendant des mois, sans aucune possibilité de recours contre ça. Et alors que l'ONU prévoit que lorsqu'on subit un tel régime d'isolement, il faut des contrôles médicaux et psychologiques drastiques pour essayer de pallier à toutes les conséquences négatives sur l'isolement, la Belgique ne met pas ça en place. Il y a des détenus des Elderadex qui disent « Oui, j'ai été vu par un médecin. Il a ouvert le clapet de la cellule, il a vu que j'étais toujours en vie, il l'a refermé, c'est tout. » Et pas d'accès à un psychologue, pas d'accès à un psychiatre, rien. On viole une quantité de normes internationales à cet égard-là.
Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais peut-être juste pour terminer. Donc, au niveau des pistes de solutions, finalement, on peut se dire que dans ce plan même de radicalisation et dans la loi pénitentiaire, il y a les pistes pour apporter cette solution. C'est un accompagnement réel et voilà, c'est juste l'appliquer finalement ce qui était prévu.
Après, la question est toujours de savoir si la prison est le bon contenant pour effectivement traiter la radicalisation. Si c'est la prison, alors dans les trajectoires de certains terroristes et d'autres, on retrouve effectivement la prison, mais je pense que le problème, il est peut-être plus dans le contenant que dans le contenu du contenant. En prison, on a du mal à traiter les choses avec souplesse. Tout est fait de plein de rigidité. Et ça apporte de la rigidité dans la pensée des gens. Il ne faut pas se duper par rapport à ça. Mais après, voilà, je pense qu'il faut peut-être investir d'autres pistes, peut-être plus à l'air libre, parce que c'est là que la vie se passe. C'est pas en prison, malheureusement.
Tout à fait, moins de prison.
Et effectivement, ce qu'il y a aussi, c'est que le fait de braquer la lutte contre la radicalisation sur le système carcéral est une réponse facile à cette lutte contre la radicalisation de manière générale, parce que le système carcéral est déjà un système clos où l'administration pénitentiaire a déjà un énorme contrôle. C'est plus facile de dire on va lutter contre la radicalisation dans les prisons qu'à l'extérieur, où finalement, peut-être que les réponses sont plus compliquées à trouver.
Alors, c'est un sujet vaste, hein. On continuera à en parler. Le risque, par exemple, qu'on a pas eu le temps d'évoquer dans notre émission aujourd'hui, c'est de pousser les conseillers moraux laïcs ou liés à un culte à ne plus respecter le secret professionnel et à relayer toute une série d'infos aux directions des prisons. Alors juste pour être complet, le ministre Madran en charge des maisons de justice a créé 5 postes pour renforcer le service d'aide aux détenus pour un budget de 200 000 euros, donc précisément dans les ailes de déradicalisation. Un centre spécifiquement dédié à la prise en charge des radicalisés ouvrira également ses portes à Bruxelles très bientôt. mais ce sera sur base volontaire, donc on verra concrètement comment ça fonctionne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois, donc Marie Berquin, Juliette Beguin et Mathieu Galmard d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle soirée.
En quête de sens
sur la première.